Audiolib présente Les morsures du silence de Johanna Gustafsson. Lu par Pascal Louange
et Florent Houllier.
À Elsa, ma sœur, et à toutes ces femmes qui, comme elle, ont eu la force de soulever les racines sous leurs pieds et de planter leur cœur blessé face à une nouvelle lumière. Watney Lander dans Black Sheep. À Maximilian, William et Alexander, mes trois cœurs de dragon. Le silence est mon amant secret. Nous nous rencontrons chaque fois que nous le pouvons. J'ai soif de lui. Une envie irrépressible de me retrouver dans son étreinte en laissant chaque fibre en moi être caressée par sa présence. Susie Louise Smith, If You Must Sing, dans Seashanger, Wave Weaver. Chapitre 1. 2 juin 2023. Anna avait mis la mer entre sa mère et elle. L'image n'était pas d'elle, mais de sa génitrice, justement. Son imagination n'avait pas tant de relief, c'est du moins ce que sa famille de lettrés n'avait eu cesse de lui faire croire. La portion de Baltique qui la séparait des siens n'était qu'un bras de mer ridicule, étranglé entre Stockholm et l'île de Lidingö, où trônait encore la matriarche, vaillante et puissante, en dépit de tout ce qui s'était passé. Des douves, voilà ce que c'était. Des douves infestées de fantômes qu'Anna devait traverser aujourd'hui pour retourner sur cette île empoisonnée. Laissant derrière elle l'usine de béton et ses cuves disgracieuses, entassées telles des déchets aux portes de l'île, elle avait roulé, tremblante, de colère plus que de peur, sur le pont reliant la capitale à Lidingö, puis emprunté la route qui longeait la côte, où quelques chanceux avaient jadis construit des bicoques devenus de grandioses villas de bois blanc, jaune ou rose. Chacune possédait son embarcadère et une vue sublime sur la baie de Stockholm. Anna s'était rangée sur le bas-côté pour regarder la mer lisse. Le soleil était franc ce matin. Il n'avait plus la pâleur du printemps. Il osait, comme en été. Il ne réchauffait pas les corps, mais il faisait verdir les arbres et briller la mer, désormais plus bleue que grise. En juin, le jour dévorait la nuit et redonnait le sourire aux Suédois qui recherchaient sa lumière autant qu'ils fuyaient les conflits. Anna frissonna en dépassant le club de golf. Elle y avait accompagné tant de fois son grand-père, à l'aube, ces mois d'été où elle pouvait ouvertement fuir sa mère. Elle était devenue un excellent caddie. Elle qui pensait n'avoir aucun talent pour rien, encore moins pour ce sport qui puait l'aristocratie, même en Suède. Lorsqu'elle s'engouffra dans le tunnel de verdure qui précédait le quartier de Stiklinga, la chair de poule recouvrit toute sa peau. L'école se dressait sur la gauche, au sommet d'une colline en bordure de forêt. Une vraie brochure Montessori en papier recyclé. Des maisonnettes rouges aménagées autour d'une cour commune avec un petit terrain de football, des balançoires, et un toboggan qui serpentait au creux d'une roche. Anna se gara près de l'arrêt de bus, zippa sa doudoune, grimpa la vingtaine de marches abruptes qui conduisaient à la cour de récréation et contourna le rocher enlisé dans le sol goudronné. À travers les fenêtres, elle aperçut les élèves de la classe 5A à leur bureau et Lucas, assis sur les siens, jambes croisées, qui agitait les bras pour ponctuer son discours. Anna entra dans le bâtiment et se retrouva dans les vestiaires où baskets, anoraks, sac à dos et bottes de pluie jonchaient le sol comme si une tornade les avait délogés des casiers et des porte-manteaux. Elle garda ses chaussures et poussa la porte de la salle de classe. Lucas se redressa d'un coup, secoua la tête et esquissa un sourire confus, puis cligna des yeux en descendant de son bureau avec lenteur. La colère d'Anna se mua en rage, comme s'il avait appuyé sur un interrupteur. Elle ferma la porte, s'y adossa et sortit son arme. Les enfants hurlèrent avant même qu'elle la pointe sur Lucas. Certains se recroquevillèrent, d'autres se blottirent sous leur table.